franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le CNR de la Résistance à 2012.
J'ai pour mission de créer le Conseil national de la Résistance, qui comprendra les représentants des mouvements de résistance, mais aussi ceux des partis politiques. Il s'agit de ressusciter la représentation nationale.
C'était une chaude journée de printemps, le 27 mai en 1943. Jean Moulin, délégué par Londres, présidait la première réunion du Conseil national de la Résistance. Dans les années d'après 1945, quand on dit CNR, on pense moins à Jean Moulin ou au rôle effectif de ses successeurs dans la libération du territoire qu'au programme adopté par tous ses membres en mars 1944 et qui en appelait unanimement à la construction d'une nouvelle économie démocratique. Planification, nationalisation, participation des travailleurs, sécurité sociale. Cette référence symbolique au CNR demeura longtemps, s'effaçant cependant au fil des générations. Puis vinrent les nouveaux temps. Le changement d'échelle de notre économie. Il fallait écarter tout ce qui gêne l'adaptabilité de la France. Un inspirateur du MEDEF crut même pouvoir dire « il faut revenir sur 45 et défaire méthodiquement le programme du CNR ». Mais voilà, à trop vouloir détruire les tabous, on réveille les totems. La réaction est venue aussitôt. Et le CNR, hier oublié, s'en trouve aujourd'hui ressuscité, magnifié. En ce jour presque anniversaire de sa création, nous vous proposons quelques petits exercices autour de son histoire, exercices plus polyphoniques qu'idéologiques. Claire Andrieux, bonjour.
Bonjour.
Historienne bien connue de la Résistance, de l'Occupation, de la Libération. Plusieurs publications sur le CNR à votre actif. Il ne faut pas peser quand on fait l'histoire de la Résistance. Idéologiquement, Pascal Copeau disait, c'est une toile d'araignée si fragile, la Résistance et son histoire.
Oui, certainement. Les résistants eux-mêmes, pour une bonne partie d'entre eux, venaient de nulle part, ne s'inscrivaient pas immédiatement dans un personnel connu dans l'avant-guerre, n'étaient pas forcément membres de partis politiques ou membres de syndicats. Donc c'est une population très spécifique qu'il faut effectivement étudier avec beaucoup de doigté.
Quant à l'histoire de la Résistance, prenons l'année 1943, avant la création du CNR. C'est particulièrement cette année-là, dit Daniel Cordier, une improvisation de jazz, mais dont on aurait perdu presque tous les instruments et dont aurait disparu l'essentiel de l'enregistrement. Alors, comment faire? Comment raconter cette période très houleuse où il s'agit de faire la fédération de mouvements de résistance qui ne le souhaitent pas nécessairement et les rapprocher de partis et de syndicats? Vous venez à l'instant de dire, Claire Andrieux, que beaucoup de résistants étaient indifférents, voire allergiques aux partis.
Oui. Ils se sont créés pour partie, c'est un cas particulier en France, la résistance démarre dans un état d'esprit très anti-parti, et même pour partie anti-républicain, parce que le dysfonctionnement de la Troisième République avait conduit à un rejet du parlementarisme débridé qui régnait à l'époque. Et dans l'eau du bain, on rejetait également les partis. Et quand en 1943, Jean Moulin, comme il vient de l'annoncer, préconise un rassemblement des partis et des mouvements au sein du Conseil national de la Résistance, il se heurte à l'opposition des résistants.
Alors, il tient les cordons de la bourse. C'est au retour de son dernier voyage à Londres, le 19 mars 1943, que fait compagnon de la Libération. Il insiste aussi sur le rôle de l'argent comme pouvoir d'unification. Alors, vous l'avez annoncé, on va entendre de nouveau Jean Moulin, ou du moins sa restitution. C'est Charles Berling dans le téléfilm d'Yves Boisset. Il est là avec Freinet de combat, peut-être Bénouville ou Brossolette. Vous nous aiderez à identifier.
Vous êtes hypocrite. Vous avez surtout peur que le maquis devienne plus puissant que l'armée secrète et qu'il échappe à votre contrôle.
Je vous préviens, nous ne renoncerons jamais à l'action immédiate.
Vous ferez ce que le général de Gaulle vous ordonnera de faire.
Jusqu'au jour où je vous ferai virer.
J'ai aussi pour mission de créer le Conseil national de la Résistance, dont je serai le président, et qui comprendra bien évidemment les représentants des mouvements de résistance, mais aussi ceux des partis politiques. Il s'agit de ressusciter la représentation nationale.
C'est inacceptable. Jamais je ne siégerai à votre conseil. Nous tous ici, nous valons plus que tous ces politicards de la Troisième République qui nous ont conduits là où nous en sommes.
C'est un point de vue que je ne partage pas, le général de Gaulle non plus.
Foutez-nous la paix avec votre grand homme. Il veut faire de nous des fonctionnaires. La résistance n'a pas eu besoin de lui pour commencer. Elle s'en passera s'il le faut.
Et comment ?
Vous le savez très bien. Il y a les Américains de l'OSS. Nous avons des accords avec eux.
C'est un coup de poignard dans le dos du général. Vous ne pouvez pas donner la parole à Giraud.
C'est notre problème.
Non, c'est le problème de la France.
Et qui êtes-vous pour nous parler ainsi ?
Je suis membre du Comité national français, ce qui me donnera de ministre. Et désormais, mon autorité s'étend sur les deux zones. Si Combat poursuit ses contacts avec les Américains, je réduirai la somme qui vous est allouée.
Oui, de Gaulle est encore à Londres. Giraud, encore soutenu par les Américains, est à Alger. Dites donc, ambiance là, en ce printemps 43. Le CNR a été l'entreprise la plus malaisée de Jean Moulin, dit Cordier.
Certainement. C'était un... On peut dire que ça a été un tour de force, cette unification des différentes forces résistantes entre elles, d'une part, et d'autre part, l'union avec les partis politiques. Et là, De Gaulle, qui était, tout militaire qu'il fût, un homme politique, avait immédiatement perçu que sans représentation des partis politiques et donc des traditions politiques françaises, il n'avait aucune chance d'être reconnu par les alliés.
Partis politiques jusqu'à la droite. Il y a des représentants de la droite au CNR.
Tout à fait. Il y a deux représentants de la droite. L'un pour la Fédération républicaine, qui était un parti, disons, catholique conservateur. Et pour l'alliance avec l'Alliance démocratique, qui était un parti plus laïque et libéral, représentant plus ou moins les milieux d'affaires. Et ces deux représentants ont bien siégé au Conseil national du CNR et n'ont pas eu une activité intense, n'ont pas été les leaders du groupe, mais ils ont siégé et ne se sont jamais désolidarisés de cette action.
Deux sur 16 membres, il y avait deux voire trois membres du Parti communiste. Vous dites, Claire Andrieux, ce CNR, c'est un ovni.
Oui, c'est un. Dans l'histoire constitutionnelle française, ça ne répond à aucun des critères, disons, usuels du droit constitutionnel démocratique. On y réunit non seulement tous les partis politiques, sauf l'extrême droite, qui est tout de même, il faut le noter, absente. L'extrême droite, qui était représentée à l'époque par le Parti social français, n'est pas au Conseil national de la résistance. Mais sinon, tous les partis y sont.
Jean Moulin aurait souhaité que les partisans du colonel de la ROC, PSF, devenu résistant, puissent participer au CNR.
Oui.
Je ferme la parenthèse.
Oui. C'est, en effet, c'était sa volonté. Mais donc, ça n'est pas une union. Alors, complète, mais c'est une union très large, tout à fait atypique. En France, on ne pratique pas les gouvernements d'union nationale, sauf de manière exceptionnelle, mais justement, c'était l'exception. Et en plus, dans ce conseil, il y avait également six représentants des mouvements de résistance qui, dans la tradition démocratique française, ne répondent à rien. C'était une création ex nihilo. Et encore, deux représentants des syndicats, les syndicats chrétiens et les syndicats de la CGT communiste et non communiste. Donc, en termes de composition, ça ne correspond à rien qui ait existé précédemment. Et en termes d'attribution, c'est la même chose, puisque c'est à la fois, il est dit dans le texte de Constitution, que c'est l'embryon de la représentation nationale, mais en même temps, ce Conseil national de la résistance dépend assez largement des financements et aussi des directives qui peuvent venir de Londres.
Jean Moulin le réunit donc le 27 mai, un jour de printemps chaud, au 48 rue du Four. Daniel Cordier, dans Alias Caracalla, raconte qu'il faisait le guet là, près de la station de métro fermée Croix-Rouge et que ensuite Jean Moulin lui a donné rendez-vous dans une galerie de peinture où Cordier a vu pour la première fois de la peinture moderne et qu'au dîner qui a suivi, Moulin ne lui a parlé que peinture. Nous irons, après la Libération, visiter les impressionnistes au Jeu de Paume. Il n'y a pas eu d'après-Libération pour Jean Moulin. Et il est arrêté peu de temps après à Caluire. Ça fragilise le CNR. La résistance est une faible toile d'araignée.
Oui.
Et il survit quand même.
Mais quand même, il survit. Et je crois que c'est cela qu'il faut expliquer. D'abord, ça le fragilise beaucoup. Parce que Jean Moulin n'étant plus là, avec, il faut bien dire, son autorité, les mouvements de résistance représentés au CNR font bande à part. Ils constituent un comité central des mouvements de résistance qui, dans l'esprit de Freinet, qui est le leader de cette opération qu'on va qualifier de séparatiste, a pour but, en fait, de latéraliser le CNR. Mais en fait, c'est le CNR qui va survivre, le comité central des mouvements va disparaître. Et mon sentiment, c'est que si cette création tout à fait sui generis et hors du commun a réussi à survivre et à jouer un rôle, c'est qu'elle était soutenue, en fait, par une forme de nationalisme construit dans l'histoire, en France, par la Révolution française, et plus récemment par le fait que la France avait été envahie déjà deux fois, 1940 c'était la troisième fois, ce qui crée tout de même une certaine dose de ressentiment et de capacité à réagir.
Quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres pays d'Europe. Il va survivre, ce CNR, comme instance politique de la résistance intérieure, et c'est là, Jean Moulin n'est plus à sa tête, Georges Bidault va peu de temps après lui succéder, qu'est mis au point ce fameux programme dont on va parler plus longuement tout à l'heure et qui est sous les feux de l'actualité depuis quelques années. Il a fallu 1, 2, 3, 4, 5 moutures, des allers-retours de négociations pour arriver à une signature qui ne s'est pas passée d'ailleurs dans une réunion officielle.
Non. Je crois qu'il faut souligner la longueur des négociations, car ce sont été de véritables négociations. Et là aussi, on voit une certaine culture politique acquise au cours des siècles, je dirais, qui permet d'accepter la négociation, de la poursuivre jusqu'à son aboutissement. Et ces négociations, alors on peut peut-être très brièvement rappeler que au début, ce programme, c'est une idée des socialistes. C'est même une idée de Léon Blum dans sa prison, qui dit qu'il faut faire quelque chose comme un programme de rassemblement populaire. Et puis l'idée chemine et elle échoue dans un premier temps. Du fait d'une opposition conjointe, à la fois de la droite qui ne veut pas de programme de Front populaire et des communistes qui craignent que ce projet ne divise la résistance.
Par exemple, les socialistes sont davantage partisans des nationalisations.
Tout à fait.
Dans la confection du programme que les communistes.
Oui, parce que les socialistes ont cette vision que la nationalisation, c'est la principale modalité de réforme du capitalisme. Chez les communistes, il y a l'idée que le capitalisme n'est pas réformable.
Nationalisation, planification, participation démocratique des travailleurs, recommandation de la coopération, des coopératives, sécurité sociale, c'est le programme de mars 44 dont on va décortiquer tout à l'heure quelques éléments. Ensuite, le rôle du CNR dans la libération est assez relatif. Le CNR est producteur de signes. A-t-il vraiment eu un rôle important dans les combats, notamment dans les combats de Paris?
Au 122 de l'avenue Philippe-Auguste se dresse l'immeuble de la Fédération du Bois où se déroulèrent le 22, 23, 24 août 1944 les trois dernières séances clandestines du Conseil national de la Résistance.
L'insurrection ne peut aboutir sans l'appui des Alliés, alors qu'ils se dépêchent.
Depuis 4 ans, j'ai changé 6 fois de nom, 20 fois de domicile. Aujourd'hui, tous nos camarades sont comme moi, impatients d'agir au grand jour.
L'impatience n'a jamais été un argument militaire.
Elle repose sur une analyse concrète de la situation. De Gaulle est à Alger. S'il était à Paris, il jugerait différemment.
Pour les Allemands, la résistance est une énigme. Des soldats sans uniforme, ça les inquiète. Ils nous croient 10 fois plus nombreux que nous ne sommes. À nous d'en profiter.
De toute façon, pareille décision ne peut venir que du Conseil national de la résistance.
Bien entendu. Il faut le réunir. Mais je suis sûr qu'il me donnera raison.
Aujourd'hui, en présence de M. Vincent Auriol, président de la République, est inaugurée au deuxième étage de cet immeuble une plaque commémorant ces trois dernières réunions. M. Paul Ramadier, président du gouvernement, rend l'hommage du gouvernement français aux héroïques résistants que furent les présidents du Conseil national de la Résistance.
Aussi bien dans les montagnes lointaines que dans l'insurrection parisienne, la France entière s'est dressée à une certaine heure à l'appel du Conseil national de la Résistance dans un élan unanime.
Puisqu'on parle de la mémoire du CNR, vous avez une revendication, la plaque du 122 avenue Philippe-Auguste, Claire Andrieux.
Il faudrait vérifier qu'elle ait été bien replacée, puisqu'on nous dit qu'elle était au deuxième étage. L'immeuble depuis a été détruit et reconstruit.
Puis c'était une plaque de bois.
Peut-être qu'elle a disparu de ce fait.
Parce que l'immeuble appartenait à la
Fédération, du syndicat du bois, CGT.
Oui, alors on a entendu Roll Tanguy dans le film Paris brûle-t-il, le classique, réclamer l'intervention du CNR en fait. Bon, le CNR, il est intervenu dans la libération de Paris, mais ce qui comptait, c'était le délégué du gouvernement provisoire du général de Gaulle, et puis l'organisation qui se mettait en place des commissaires de la République, et puis dans le reste du territoire, des comités départementaux de libération, c'était pas le CNR.
Le CNR ne pouvait pas tout faire. D'abord, à l'époque, il y avait presque plus de moyens de communication entre Paris et la province. C'était déjà le premier problème. Le CNR a tout de même joué un rôle dans l'arrêt de la trêve que le délégué du général de Gaulle avait essayé de mettre en place. Il a donc eu un rôle dans l'accélération de la libération.
La résistance est une fragile toile d'araignée. Pourquoi le chant des partisans s'est-il imposé au moment que nous évoquons la surprise quand elle rentre dans la capitale de son auteur numéro 1, Anna Marly, et pas, on va l'entendre, la complainte du partisan, trop peu connue, parole d'Emmanuel Dastier, l'interprète Anna Marly.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, l'ennemi l'a su. Il est mort sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le Conseil national de la résistance, son rôle et sa mémoire avec Claire Andrieux. Nous rentrerons dans l'ombre, dit Anna Marly. À la libération, le leadership, c'est quand même à Paris le général de Gaulle, lequel reconnaît dans le CNR un partenaire, mais certes pas un partenaire unique, ni même prioritaire. En témoigne cette grande réunion patriotique qui se tient à Chaillot le 12 septembre 1944.
Le général de Gaulle se lève. Toute la salle debout acclame le général.
La réunion d'aujourd'hui où se trouve auprès du Conseil national de la résistance les représentants des grands corps de l'État et toutes sortes d'hommes de toutes origines et de toutes nuances qui se sont mis eux-mêmes au premier rang de ceux qui menaient la lutte et qui la mènent encore contre l'ennemi. Voilà ce qu'est cette réunion d'aujourd'hui, magnifiquement symbolique de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être.
Oui, le CNR, mais aussi, et encore. Alors, les mouvements de résistance qui avaient tellement renaclé à faire le CNR, ils voudraient bien maintenant le constituer en contre-pouvoir, mais de Gaulle ne veut pas de pouvoir parallèle.
Non. Et en fait, le CNR a immédiatement été mis de côté et son existence était symbolique. Et d'ailleurs, les anciens résistants, puisque du jour au lendemain, ils se trouvaient anciens résistants, ont perdu leur cohésion. Et donc le CNR a disparu de la scène. En revanche, ses idées ont été portées par le programme.
Et pouvoir symbolique et programme symbole. Alors on va prendre un dossier dans le programme, parce que c'est un de ceux qui passionne encore le plus aujourd'hui, celui de la sécurité sociale. Le mot sécurité sociale est employé dans le programme.
Oui, tout à fait, qui demande un plan complet de sécurité sociale.
Mais la sécurité sociale, elle est, nous dit-on, l'œuvre d'un homme qui est nommé en octobre 1944 à un poste essentiel de directeur au ministère du Travail, et dont Marc Ferraud ici réclame qu'on relève le souvenir.
On ne donne jamais le nom de Pierre Larocque, car enfin c'est lui le père de la sécurité sociale. Pierre Larocque, qui a vraiment instruit la création de la sécurité sociale, en s'inspirant en partie de Beveridge, mais tout le travail, c'est lui qui l'a fait, eh bien, il est inconnu. Regardez les index des livres, il n'est jamais cité.
Dans la période que nous vivions à ce moment-là, il y avait un courant d'idées qui faisait qu'il emportait tout. Un esprit de solidarité, né de la guerre et de ses suites, et qui soulevait l'ensemble de l'opinion. Et j'ai eu la chance aussi que le syndicalisme salarié, était extrêmement puissant et se résumait essentiellement dans la CGT. Et qui groupait à ce moment-là 5 millions d'adhérents. Tout ça, c'est l'élan collectif de la population ouvrière et je dirais de la masse de la population.
Ce courant puissant, il vient de très très loin. Pierre Laroque lui-même pensait à l'assurance sociale avant-guerre. Et puis avant Pierre Laroque, ça faisait des décennies qu'on imaginait de remplacer l'assistance par l'assurance.
Oui, on avait même commencé un peu dans l'entre-deux-guerres, parce que la loi sur les assurances sociales, c'est 1928-1930. Donc, ce n'était pas une création absolue en 1945, mais c'était dans l'air du temps, comme il le dit. Par exemple, la première utilisation officielle du terme de sécurité sociale, c'est une loi américaine du temps de Roosevelt en 1935.
Et puis, faut citer l'exemple anglais, Beveridge.
Oui, le plan Beveridge en 1941-42, qui met en place une sécurité sociale à l'anglaise, c'est pas le système français qui est beaucoup plus construit sur la participation des syndicats. Et donc, Pierre Laroque lui-même était conseiller d'État, spécialiste du droit social. Et il a, une fois qu'il s'est trouvé à Londres, il a conçu ce plan. Il revient en France à la Libération et il le travaille avec les syndicats. Et autrement dit, il y a une convergence. Pierre Laroque n'était évidemment pas au Conseil national de la Résistance et ce n'est pas le même milieu, mais il y a une convergence qui se fait à ce moment-là à la Libération.
Alors on défend maintenant une sécurité sociale laroquienne idéalisée. Il n'était pas pour les régimes spéciaux.
Non,
Pierre Laroque.
Il était pour un régime unique.
Il était furieux que ces régimes spéciaux s'additionnent à son régime unique.
Absolument. Et compliquent son régime unique. Parce que l'unicité du régime permettait d'établir des vases communicants généralisés.
Enfin, tout n'est pas simple, comme l'eau claire de la source. Ensuite, les années passent, le programme du CNR Évidence Partagée, par exemple dans le domaine de la sécurité sociale, mais aussi dans le domaine du dirigisme, de la planification, de la coopération, de la participation des travailleurs, il déchire au général de Gaulle, peu à peu s'efface. Ce qui est évident, ça finit par n'être plus visible, ce qui est moins visible, c'est oublié. La réactivation, les étapes. Je vous en propose une première à laquelle on ne pense pas, c'est l'offensive Hersant. Hersant, qui avait été un peu collaborateur au début de la guerre, veut reprendre, journal de province par journal de province, les propriétés collectives des mouvements de résistance qui s'étaient emparés des maisons de presse dont elle voulait faire des maisons de verre à la Libération. Patrice Chéreau, en 1978, au moment de cette offensive Hersant, a imaginé Simone Signoret dans le rôle d'une vieille résistante que ses camarades invitent à affronter les assauts du papivore.
Libre République. 34 ans exactement. La résistance. Les résistants. Et les autres, les partis, les syndicats, qu'est-ce qu'ils font?
Mais Irène, il est à nous, ce journal.
C'est fini tout ça. Regardez-vous. Regardez-nous. Hein? Les vieux, les vieilles, les veuves. Vous la lisez, vous, la République? Hein? Vous la lisez? Tiens, dis-la.
C'est peut-être la dernière chose qui nous reste. Donc il faut la défendre.
Défendre quoi? Chaque fois qu'il a voulu un journal, il l'a eu. Hein? Puis moi, j'ai plus envie de défendre quoi que ce soit.
Enfin, finalement, elle va s'y mettre, Simone Signoret. La réactivation, l'humanité dans les années 90 reparle beaucoup, là, c'est un journal de Paris, du CNR. Vous la datez, vous, du changement d'échelle de l'économie mondiale et de l'idée qui s'insinue dans les élites, qu'il faut adapter la France et donc peut-être bazarder un certain nombre d'héritages.
Si vous voulez, dans les années 30, on peut considérer qu'il y a eu une conversion des élites au dirigisme. Et dans les années 80, il y a eu une conversion des élites au libéralisme. Et du coup, si vous voulez, on est arrivé jusqu'au point où en 1990, et c'était du temps du président Mitterrand, la liberté du marché des capitaux a été réinstituée, comme c'était le cas avant 14, vous voyez. C'était vraiment une révolution. Une révolution non seulement économique, mais culturelle. Et là, je crois qu'il y a un signal qui a été envoyé et qui fait que, par réaction, le programme du CNR a retrouvé une fonction d'opposition, une fonction de but témoin. Et je crois que c'est, pour le moment, c'est sa fonction.
2002, Attac soutient une pétition pour le 60e anniversaire que signent Léo Braque, Guingouin, Daniel Cordier. Et puis, 2007, la bataille des Glières, qui est exactement contemporaine de la rédaction du programme Mars 44, est célébrée par le candidat à la présidence de la République. C'est le lieu du dernier discours, en mai 2007, de Nicolas Sarkozy. Et aussitôt, contre rassemblement, il y en aura un depuis chaque année.
Merci d'être ici pour ce rassemblement de la mémoire partagée.
Sa venue, je l'ai appris le matin à 7h sur France Inter. C'est un candidat qui usurpe certaines idées pour piper des voix. Pour ceux qui connaissent les rescapés qui sont encore en vie, lorsque les médias ont passé les images de cette visite, il n'y avait aucun résistant aux côtés des sénateurs, députés de la majorité. Mais alors, non seulement il usurpe des situations, mais il a un programme politique qui tourne le dos au programme de la résistance, au programme du Conseil national de la résistance.
Voilà Walter Bassan qui est un peu dans le rôle qui était tout à l'heure celui de Simone Signoret. La mondialisation est vécue par Bassan et ses amis comme un défi ou un coup de grâce pour notre système de protection sociale?
Je crois que c'est vécu comme un coup de grâce. Et pour d'autres, c'est vécu plutôt comme un défi. Cette réactivation du programme du CNR pose le problème des leçons de l'histoire. Est-ce qu'on peut appliquer des formules trouvées dans le passé, dans le présent? Et c'est, bien sûr, ce n'est pas ainsi que les choses peuvent se faire, si simplement, ne serait-ce que parce que l'histoire elle-même est controversée. Mais si on regarde aujourd'hui comment se traduit le programme du CNR, du moins si on cherche à en transposant, on voit que les recettes du passé, qui étaient la nationalisation essentiellement et la planification, ne sont plus vraiment mises en avant. Si on regarde aujourd'hui le programme du Parti Socialiste, il n'y a rien de ce type. En revanche, dans le programme du Front de Gauche, oui, il est encore question de nationalisation. Mais on voit que c'est à titre résiduel. Aujourd'hui, je crois que si on cherche une comparaison, si on cherche le centre de gravité d'un accord social élargi, c'est sur l'idée de régulation, de compromis social ou bien de dialogue social. C'est un peu cela qu'on garde aujourd'hui du programme du CNR.
L'effort collectif ne peut avoir lieu sans unité sociale. Préface de François Hollande à la nouvelle édition chez Perrin du rapport Bedridge, parallèle à la création de la sécurité sociale. Enfin, on n'est pas des voyageurs sans bagage, mais il faut refaire quand même parfois le bagage des idées, non ?
Tout à fait. Non, il faut retracer la généalogie des idées et il faut voir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est une vieille formule.
Merci à vous, Claire Andrieux. Je rappelle qu'avec Jacques Semelin et d'autres, c'est votre dernière publication, vous avez travaillé sur le thème Résistance au génocide. C'est aux presses de Sciences Po, la vieille maison dont vous êtes un des piliers. Puis, aux éditions de l'Érudit, on trouve un volume, enfin, il faut vraiment le chercher parce qu'il est devenu quasi indisponible sur le programme du Conseil national de la résistance. Vous l'avez publié il y a quelques années. Il faudrait le refaire, Claire Andrieux. C'est un appel que je lance aux éditeurs. Lundi, nous parlons des jours fériés, les polémiques françaises, le lundi de la Pentecôte avec Jacqueline Lalouette et dans un instant le débat autour de l'actualité scientifique de La Tête au Carré avec Mathieu Vidard.